Je vous inviterai ce matin à plusieurs lectures dans la parole de Dieu. La première dans l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 17 et jusqu'au verset 21. 1 Corinthiens 1, 17 à 21. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages ». Je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et puis deux textes dans l'épître de Jacques. Tout d'abord au chapitre 1er, dont nous lirons les versets 5 à 8. Jacques, chapitre 1er, versets 5 à 8. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Et une deuxième lecture, toujours dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, dont nous lirons les versets 3 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, portant du fruit, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Dès le début de son épître, Jacques invite ses lecteurs à ne faillir en rien. Chapitre 1er, verset 4. Un but qui nous paraît, je pense à vous, comme à moi, inaccessible. Pourrions-nous vraiment un jour parvenir à ce résultat? Et pour que ses lecteurs s'engagent dans cette voie, Jacques les invite à demander à Dieu la sagesse. Acquérir la sagesse, oui, mais pourquoi? Et au fait, qu'est-ce que la sagesse? Alors, je n'ai pas voulu dresser une liste récapitulative de toutes les définitions de la sagesse que l'on peut trouver dans les dictionnaires encyclopédiques, Wikipédia, le petit Robert, etc. On ne pourrait y être encore demain tellement la liste est longue. Je donnerai quelques petits exemples de la sagesse au sens populaire du terme. Ça désigne le bon sens, la capacité de faire des choix justes, sans se fonder obligatoirement sur des préceptes philosophiques ou religieux. Les philosophes qui étaient des rois dans cette pratique de la sagesse se représentaient cette sagesse comme un idéal de vie qui nécessitait pour eux la mise en pratique d'un certain nombre de vertus qu'ils recherchaient. Et les Grecs même différenciaient la sagesse théorique, phronesis, de la sagesse pratique. Et la sagesse réelle étant pour eux la conjonction, l'assemblage des deux. Si vous vous rappelez un petit peu ce que vous étiez quand vous étiez enfant, vous avez certainement entendu vos parents vous dire « Sois sage, sois calme, sois modéré ». C'est aussi une définition que l'on donne pour dire d'une personne qu'elle est sage. Et peut-être même que vous vous rappelez le bon temps de l'école maternelle ou primaire où quand on vous disait d'être sage et que vous l'étiez, on vous donnait un bon point ou une image. Et puis, on ne peut pas penser non plus sur ce que la sagesse pour des gens ressortissants d'Afrique. Si vous demandez à un Africain une définition de la sagesse, il vous dira « Oh, allez voir le vieux du village, le chef. Pourquoi ? Parce qu'il a de l'expérience et qu'il a acquis, avec l'âge, un certain nombre de notions qui le guident dans une voie juste. » Pour résumer, je dirais que la sagesse est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique, à une morale, alliant la conscience de soi, d'une part, mais aussi la conscience des autres, avec, entre autres, de la tempérance, de la modération, de la prudence, de la sincérité dans les paroles, du discernement. Alors cet ensemble de notions que je viens de définir sont bien sûr des notions purement humaines. Elles n'entrent pas, et on va y revenir tout à l'heure, dans la définition de la sagesse telle que Dieu la voit. Alors, peut-être vous estimez-vous, à partir de ce que l'on vient de définir comme suffisamment sage, instruit, intelligent, et que vous n'estimez pas avoir besoin de sagesse. Beaucoup de nos contemporains sont dans ce cadre. Ils estiment être intelligents, doués de capacité de réflexion, de décision, pour pouvoir gérer leur vie comme bon leur semble. C'est la sagesse du monde, la sagesse telle que Dieu la décrit comme étant une folie. Peut-être au contraire appartenez-vous à l'autre catégorie d'hommes que Jacques, dans son épître, exhorte à demander à Dieu de leur donner la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. C'est déjà un encouragement extraordinaire que Jacques délivre à ses lecteurs. Si vous demandez à Dieu, si vous le faites avec foi, eh bien, Dieu va vous donner, et sans compter. Alors, ces remarques préliminaires m'amènent à envisager avec vous maintenant, comme la parole de Dieu le fait dans ce troisième chapitre de l'épître de Jacques, deux sagesses. Une sagesse aux yeux du monde, une sagesse aux yeux de Dieu, et en tirer les conséquences pratiques dans notre vie pour que notre sagesse à nous, reçue de Dieu, puisse se concrétiser dans notre manière de vivre pour être un exemple à ceux qui nous entourent. Alors, la sagesse du monde. Je pense qu'il faut revenir sur le fait que Jacques, quand il écrit cette lettre, s'adresse aux 12 tribus d'Israël dans la dispersion, c'est-à-dire des Juifs dispersés dans l'ensemble du bassin méditerranéen et grandement en contact avec les philosophies de l'époque, du monde gréco-romain. Et la lettre de Jacques est un avertissement à ses lecteurs, à ne pas se laisser abuser, à ne pas se laisser détourner de la voie droite, parce que les autres estiment être, eux, la juste vérité marquant leur sagesse personnelle. Et Jacques insiste sur ce qu'est cette sagesse du monde. Une sagesse qui est le reflet de notre vieille nature. Lorsque, dans le jardin d'Éden, l'adversaire est venu séduire Adam et Ève, il n'a pas utilisé un autre moyen que celui de leur faire miroiter une grande foule de connaissances. « Mais non, vous ne mourrez pas si vous mangez de ce fruit. Au contraire, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Sagesse des hommes qui s'estiment tout connaître, tout savoir et tout pouvoir transmettre par l'instruction à ceux qu'ils vont enseigner. Et Paul nous dit dans son épître aux Romains que rien de ce qui est bon n'habite dans l'homme. Romains 7, 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Et Jacques de citer au verset 13 ce verset extraordinaire, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Ce n'était pas le cas d'un certain nombre de lecteurs auxquels il s'adressait. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas d'être sage à vos propres yeux ou sage aux yeux du monde. Non. Cette sagesse, Jacques l'a définie avec des critères excessivement durs. Elle ne vient pas d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Et Jacques parle d'une jalousie amère. Qu'est-ce que c'est que cette jalousie amère dont il parle ? Il y a d'autres textes qui parlent d'envie, de désir de gloire. On en revient à ce que je disais tout à l'heure concernant Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le désir de dominer, de connaître tout, d'être plus grand qu'eux, vous serez comme des dieux. Sentiment du vieil homme, sentiment de celui qui veut croire qu'il connaît tout, qu'il sait tout, qu'il peut tout. Et ne pas voir ce que les autres font. Il y a un exemple de cette jalousie amère dans la vie d'un homme, Saül. Saül qui, après que David ait vaincu Goliath, alors qu'il aurait dû se réjouir d'avoir pour son peuple obtenu victoire sur les Philistins, Saül a pour David une jalousie terrible. Qui est-il, celui-là ? Mais pour qui se prend-il ? Il aurait certainement, lui, confronté à Goliath, eu peur. Mais voir David aller rencontrer ce géant, invoquer le nom de l'Éternel pour obtenir la victoire, l'a complètement déstabilisé. Exemple de sagesse que l'on aurait dû avoir et que Saül n'a pas eu. Deuxième manière dont l'apôtre Jacques parle, il parle d'un esprit de querelle. Esprit de querelle qui est souvent provoqué par des paroles blessantes. Qui d'entre nous, qui d'entre vous, et moi le premier, n'avons pas eu un moment ou l'autre de nos vies, une dispute avec l'un ou l'autre de notre prochain ou de nos frères et sœurs en la foi, pour quelquefois des peccadilles, et qui nous ont amenés à nous emporter, à avoir de mauvais sentiments avec l'autre, avec ce frère ou cette sœur. Cela conduit souvent, comme Jacques le dit, au désordre, à une marche avec le Seigneur freinée, ralentie, perturbée. Ça ne se rencontre pas que dans le monde, cette attitude, même parmi les chrétiens. Et Jacques donne le remède. S'humilier. Reconnaître que l'on n'est pas meilleur que l'autre. Et il y a une parole extraordinaire qui va nous amener à voir que si la sagesse du monde n'est pas en honneur du tout devant Dieu, il y a un exemple extraordinaire que la parole de Dieu nous laisse. À travers ces paroles que nous donne Paul dans son épître aux Philippiens, un texte que vous connaissez, je pense, pour beaucoup par cœur. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse considérer les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et un autre texte, encore dans l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 3, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Paul nous dit que la sagesse des sages, la sagesse des gens de ce monde n'a aucune valeur devant Dieu. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 1er nous dit que les hommes sont finalement fous de ne pas avoir voulu reconnaître la grandeur de Dieu à travers ce qu'il est, à travers ce qu'il a fait et à travers l'amour qu'il nous a manifesté. Un texte que je vous invite à relire se trouve dans le premier chapitre de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 18 à 23, qui n'a pas voulu, pour chacun de nous en tant qu'homme, reconnaître Dieu à travers la création qu'il a faite. Ils sont donc inexcusables. C'est le jugement que Dieu porte sur chacun de nous, dès l'instant où nous nous considérons sages à nos propres yeux et pas emprunts de la sagesse de Dieu. Alors, quelle est cette sagesse de Dieu? Il y a beaucoup de versets des Écritures qui la définissent, dont un que vous connaissez sans aucun doute, qui se trouve dans le psaume 111, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Alors, faut-il comprendre que le pécheur obtiendra la foi par le moyen d'une crainte ou d'une frayeur qui conduirait au salut, et qu'il se tiendra sage comme un enfant sous la seule menace d'un châtiment? Non, ce n'est pas ainsi qu'il faut l'entendre. La crainte de l'Éternel est l'exhortation que Jacques nous donne de rechercher cette sagesse en Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu. Pascal, dans un de ses messages, il n'y a pas longtemps, nous parlait de cette peur de Dieu. Ce n'est pas la peur de la mort, c'est la peur de la désobéissance, c'est la peur de ne pas satisfaire celui qui a tout fait pour nous. Alors, dans le chapitre 3, juste avant de voir les différents qualificatifs que l'apôtre donne à la sagesse d'en haut, Jacques nous parle de ce qu'est la langue indomptée, et tout de suite, il nous adresse cette exhortation à la sagesse. Quelques qualificatifs. Je relis ce texte, les versets 13, 17 et 18. Sagesse qui ne peut être que le résultat d'une transformation de notre être intérieur par une régénération, par l'esprit. Sagesse, elle se caractérise par plusieurs attributs que Jacques nous rapporte. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Toutes ces qualités, il en est un, et un seul, qui les a pleinement manifestées devant tous ceux devant lesquels il a vécu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous invite à revoir chacun de ces caractères. Sagesse d'en haut est humble. Jacques nous dit que tout doit être fait dans une parfaite humilité. Et le Seigneur, dont nous avons lu tout à l'heure l'exemple à travers ce texte de Philippiens 2, en a été l'accomplissement parfait. Il ne s'agit pas d'acquérir la sagesse par la connaissance, mais de l'appliquer à notre vie de tous les jours, en menant une vie qui honore Dieu. Et Jacques insiste sur les œuvres, la bonne conduite, illustrée par la douceur, douceur de la sagesse, ou encore le terme grec dit une sage douceur. L'homme vraiment sage, selon Dieu, est humble et doux. Heureux les humbles, car ils hériteront le royaume. Matthieu. Deuxième qualité de cette sagesse d'en haut, elle est pure, bienveillante, c'est-à-dire une sagesse qui ne laisse pas de place aux ailes amères, à la jalousie, à l'esprit de dispute que nous avons tendance dans notre vie de tous les jours à manifester. Une sagesse pure qui recherche le bien en toute chose et en tout temps. Cette caractéristique de la sagesse qui est la pureté ne peut venir que de Dieu. Elle est céleste, elle est de Dieu même. Car la pureté, la vraie pureté, ne se retrouve qu'en Dieu, qui est saint. En conséquence, je dirais que si notre cœur, notre vie est en communion avec Dieu, à chaque instant de nos vies, quand nous nous retrouvons ensemble, quand nous sommes seuls, quand nous prions le Seigneur, cela se traduira dans nos vies. Si notre recherche de Dieu est constante, la vraie et seule pureté que nous aurons à manifester, nous la recevrons de Dieu lui-même. Troisième aspect de cette pureté, elle est pacifique, paisible. Une sagesse qui est prête à répondre aux besoins de ceux qui nous entourent. Savoir reconnaître dans le monde qui est autour de nous, un monde qui est dans les ténèbres, ceux qui ont besoin non seulement de la vie, mais d'une aide matérielle, d'une aide spirituelle. Si notre cœur est envieux, belliqueux, comme l'est ceux qui pratiquent la sagesse de ce monde, ces comportements ne peuvent générer la paix. Le mot pacifique vient du mot paix. La paix, nous dit Jacques, c'est le fruit de la justice, la semence de la justice, être juste dans nos comportements. Si nous avons un tel comportement, nous serons des hommes de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, nous dit Paul aux Romains. Un chrétien caractérisé par cette sagesse d'en haut manifestera dans sa vie de tous les jours le désir constant d'être en paix avec tout ce qui l'entoure. Et alors, cela générera des fruits. Il y a un exemple dans la Bible, dans un livre qui ne parle pourtant pas de Dieu. Le mot « Dieu » n'est jamais évoqué. C'est le livre d'Esther. Et le comportement d'un homme, Mardoché, qui apporta par la manière de vivre, sa manière de vivre, qui apporta à son peuple non seulement la paix, mais la survie, alors qu'il était menacé de destruction totale. Prospérité de sa conduite et de sa sagesse dans une vie de paix pour tout le peuple. Demandons à Dieu de faire partie de ces bienheureux qui procurent la paix. Matthieu 5, 9. Autre caractéristique, sagesse modérée. Pour atteindre la justice, la maturité spirituelle, la sainteté pratique, le chrétien doit veiller sur sa langue. Et nous revenons là sur ce que je disais tout à l'heure en introduction. Quand Jacques, avant d'aborder la sagesse d'en haut, parle de langue, de dompter sa langue. Et ce n'est pas seulement dompter sa langue. Ce que nous prononçons dans nos paroles vient du cœur, vient du plus profond de nous-mêmes, de nos pensées. Notre but est de manifester par des paroles douces ce que Dieu a mis dans notre cœur, l'amour pour les autres. une attitude, un comportement modéré, des paroles encourageantes, réconfortantes, une bouche qui déborde de louanges, ne peuvent provenir que d'un esprit que Dieu lui-même a rendu sage et obéissant. Ensuite, elle est conciliante, cette sagesse d'en haut, manifestement d'un comportement qui ne cherche pas à tout prix à avoir le dessus sur l'autre, c'est-à-dire qui ne va pas à tout prix vouloir faire valoir ses droits. Il est des temps où nous avons besoin de les faire valoir, mais ce n'est pas le but de toutes les heures de notre vie. Chercher à tout prix à faire valoir ses droits, c'est vouloir dominer, c'est vouloir être orgueilleux ou tirer la propre gloire. Cette sagesse qui cherche toujours à obtenir une bonne entente avec tous ceux qui nous entourent, qui conduit à des sentiments de paix, de partage, est une sagesse qui provoque entre chrétiens, comme avec les gens du monde, une parfaite harmonie. Une autre caractéristique de cette sagesse de Dieu, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Alors pourquoi Jacques insiste-t-il sur la miséricorde et la pratique de bons fruits ? Tout simplement parce que si nous sommes devenus ce que nous sommes, des enfants de Dieu, c'est tout simplement parce que nous avons été l'objet de la miséricorde de Dieu. Comme l'apôtre Paul le rappelle à Timothée, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. » Nous avons tous été rachetés à un grand prix. Dieu a eu pitié de nous. Nous ne méritions rien. Et si le croyant réalise qu'une grande miséricorde lui a été faite par Dieu, eh bien, il doit le faire aussi à tous ceux qu'il rencontre. Soyez donc, comme le dit Jésus, miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Luc 6, 36. Et cette miséricorde envers l'autre, elle doit se traduire dans nos vies par des bonnes œuvres. Des œuvres que Dieu a préparées lui-même d'avance pour nous. Enfin, dernière qualité de cette sagesse d'en haut, elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Sans duplicité, d'autres traductions de la Bible traduisent le mot duplicité par sans parti pris, sans partialité, sans favoritisme. Cela signifie que celui qui est sage devant Dieu doit se garder de porter un jugement sur l'autre, souvent un jugement porté sur l'apparence, sans vraiment connaître le fond de la situation ou le pourquoi du comportement d'un tel individu. Sans hypocrisie, c'est-à-dire avec un esprit de droiture, pas quelque chose qui n'est pas au fond de notre cœur, dire des paroles que nous ne pensons pas vraiment pour éblouir l'autre ou pour nous faire valoir devant lui. Non. Sans hypocrisie, sans esprit de ruse, avec sincérité. Un comportement dénué d'hypocrisie signifie que nos paroles, nos pensées, nos actes ne seront pas sous l'influence de la chair, mais guidés par l'amour de Dieu. Alors comment doit se manifester dans nos vies de tous les jours, cette sagesse d'en haut? Bien par des conséquences. Tout d'abord, une conduite irréprochable. Et le Seigneur reprochait aux scribes et aux pharisiens, je dirais ces hommes attachés au respect scrupuleux de la loi, de dire et de ne pas faire, Matthieu 23, 3. Et Paul reprend ce sujet sous une autre forme, affirmant aux Corinthiens que celui qui parle de telle manière considère que tel que nous sommes en parole, par nos lettres, étant absent, tel nous sommes aussi de fait, étant présent. Ce comportement de Paul exempt de duplicité. Il était dans ses paroles exactement comme il était dans ses actes. Il ne disait pas telle chose et ne faisait pas telle autre. C'est pourquoi, avant de donner des exhortations aux Thessaloniciens, Paul leur rappelle sa propre conduite. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste, irréprochable. 1 Thessaloniciens 2, 10-12. Et Paul, vraiment conscient que c'est par notre comportement que nous manifesterons véritablement cette sagesse d'en haut, dit à son enfant dans la foi Timothée, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » 1 Timothée 4,16. Dans le verset 13 que nous avons lu tout à l'heure, sont associés deux termes, sagesse et intelligence. Car pour honorer Dieu, il nous faut à la fois les deux, mais pas l'intelligence humaine, l'intelligence spirituelle, que nous trouvons en recherchant la volonté de Dieu, ce qu'il veut que nous mettions en pratique dans nos vies, qui est conforme à sa parole. Voilà le premier point de départ, une intelligence renouvelée, une recherche de la sagesse de Dieu. Et c'est la prière que Paul adresse à ses amis de Colosse, quand il dit « Nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour, c'est là le but, marcher d'une manière digne du Seigneur qui l'honore, Colossiens 1, 9 et 10. » Deuxième manière de manifester autour de nous la sagesse de Dieu, être modéré dans sa parole. On l'a évoqué tout à l'heure quand on a évoqué la modération. Jacques exhorte ceux à qui il s'adresse à ne pas être beaucoup de docteurs, ou si vous préférez, d'enseignants, de maîtres, de ceux qui veulent porter aux autres leur savoir. Et il leur enseigne de ne pas avoir trop de paroles sans avoir au préalable appris à être maître d'eux-mêmes, c'est-à-dire savoir se discipliner. Enseigner les autres, c'est bien, mais la première chose à faire, c'est que ce que nous enseignons aux autres, nous l'appliquions en premier à nous-mêmes. Que Dieu nous donne de rechercher la vraie sagesse, de vivre en conformité avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. La sagesse, selon Dieu, se trouve, nous l'avons déjà dit, dans une seule et unique personne que nous avons comme exemple, Jésus-Christ. C'est lui, comme le dit Paul aux Corinthiens, qui a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Puissions-nous le laisser vivre pleinement en nous pour qu'il puisse, dans notre vie de tous les jours, dans notre comportement, comme dans nos pensées, manifester cette sagesse divine. Je terminerai en vous laissant ces paroles d'un cantique qui me rappellent ma jeunesse, mon enfance même. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen.